Et coucou.
Salut à tous.
Non mais salut, ça y est, on est en direct.
C'est mon premier live sur Twitch, que je suis surpris, c'est pour ça. Je suis un peu ému même en fait.
Salut à tous.
Salut à tous et bienvenue pour cet enregistrement un peu exceptionnel parce qu'on va enregistrer le 28e épisode des podcasts de Deeply Rooted sur le rap américain. Et aujourd'hui, on va vous parler d'Harlem. Jojo, est-ce que tu peux nous présenter un peu le programme?
Ouais, le programme, il est vaste. Harlem, c'est un des quartiers les plus importants, en tout cas en matière de rap, à New York. Donc on va un peu terminer notre cycle sur New York, sur ce quartier emblématique. On va faire plusieurs parties, on va détailler après, plus tard.
Ouais, parce que du coup, on disait c'est le 28e épisode, parce qu'on a abordé une bonne partie du rap US. On vous invite à aller voir sur www.deeplyrooted.fr, vous avez l'adresse. Pour suivre tous les épisodes qu'on a fait, on a abordé pas mal des quartiers de New York.
Là, on a déjà fait le Bronx, on a fait le Queens, on a fait Brooklyn, là Harlem aujourd'hui, on a fait Staten. Ouais.
On a un peu disparu pendant quelques mois, ouais. On va pas se mentir, parce qu'on a tous eu des programmes un peu plus chargés, mais du coup ça nous tenait à cœur de terminer New York, notamment par Harlem, parce qu'il nous reste des gros morceaux à aborder. Je le disais, on est en direct sur Twitch pour cette émission qui va durer une heure et quelques, on va vous balancer pas mal de sons aussi, donc si vous voulez en savoir plus sur le rap d'Harlem, restez dans le coin. Je vois qu'il y a des gens dans le chat, des invités exceptionnels, JL Mélenchon qui est là et qui me dit d'arrêter de gigoter.
Shout out à Jean-Luc.
À Milan Music aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'est abonné avec un Prime. Merci à Milan Music.
Merci Milan, incroyable. Début de la célébrité.
Le son est un petit peu décalé par rapport à la voix. On a organisé ce live à l'arrache, il faut le savoir.
Oui, mais on est spécialiste. Soyez indulgents. Ouais.
Donc, avant de parler de l'histoire un petit peu d'Harlem et de Big L, je crois que c'est ça, on va commencer l'émission avec ça.
Entre autres, ouais.
On va s'envoyer un premier son, c'est...
Welcome to New York City, ouais, de Cameron featuring Jules Santana et un certain Jay-Z en featuring aussi sur la chanson.
Donc on vous envoie ça et on se retrouve juste après pour le début de l'émission, à tout de suite. Turn the motherfucking music up. Just plays, man. Oh, me nigga. Yeah. Welcome to the Empire State, home of the World Trade, birthplace of Michael Jordan, home of Biggie Smalls, Rockefeller headquarters. Ladies and gentlemen, Killer Cam, Young Hov is definitely in the building. Brooklyn, Harlem World. Stand the fuck up. I'm a BK brawler, Marcy Projects hallway orderer, pure coke copper, get your order up. I bring him to Baltimore in the Florida Explorer, but it's gonna cost you more if I gotta get him to Florida. Rucker game attender with the bent park on the sidewalk with the templates on the fender. I ain't hard to find, you catch me front and center at the Knick game, big chain and all my splendor. Next to Spike, if you pan left to right, my own Madison Square, catch me at the fight with Cam. Once again, if you pan left of his ice, I'll be the man that write checks with the hand that don't write. I go off the head when I'm rambling on the mic, and I go off the fast when I'm scrambling at night. And it was off the set, I brought hammers to the fight, but we from New York City, right, Cam?
You're damn right. She's the home of 9/11, a place of the lost towers. We still banging, we never lost.
Going on outside, no man is safe from it. It don't matter if you 3 feet or 8'1". You'll get 8 from the 9M straight blunt. Wig split, melon crack, all that on day one. Carry 8 guns, 2 in the trunk, 2 on the waist, 2 on the ankle, 2 to just spank you. You get jammed with them jammers, blam with them blamers. Hot here, ask Macy, ran to Atlanta. You think you know what life do? Mink on the motorcycle, trinkets they so delightful, blinging in so much ice blue. In front of Sparks, body Castellano, block away, watch by Gotti and Gravano. It's like Costa Nostra, someone close approach her, they'll toast your gopher, bread loaf your chauffeur. Old coat, they raise up and snort, blaze up your fort, J-Puff shine, cases we score. Midnight pitch fights, another victim, watch him, for he watch him. Kill him.
Welcome to New York City.
If the shit is live, fifth floor, 56, you know the zip district 5. You on 22nd, hit you from 2-1. That's on Lennox, 7th Ave with News 1.
Coverage at Center Street, God Brofin defended me. Cause New Yorker miss me if I'm locked in the penitentiary. The judge said, is this that thug in the Kit Kat Club? But I got enough chips stacked up to make the bitch back up.
Killer. I pitch that button, I grip that snub to hit that thug. Lay up in a pitch black tub. I'm looking at rich black thugs to get that love. It won't stop till I get back blood. Holla at them hoes.
Flush it, Marcy, Notion, Myrtle and Park. Niggas will drive by in the day, murder you in the dark. That's why the Johnny gun I'm holding. Wet niggas up like the Johnny pump is open. Homie, I play hard.
It's the home of 9-11, a place of the lost towers. We still banging, we never lost power.
Y'all niggas, man, y'all can't fuck around, man. It's the Rock, bitch, killer. My nigga Sugar, Siegel, Beans, Diplomats, man. Hop, dash. Get the fuck off my dick, no homo. Boy, shit, I'll be on the show for 2 minutes, man. I own this shit right now, man. I ain't going nowhere.
Et
le geste technique que tu nous as fait à la
première. Le retour de l'émission, c'était donc Welcome to New York City de Cameron, Jay-Z et Jules Santana.
Lui-même.
Alors pour ceux qui suivent un peu Deep Rooted, ils savent qu'on aime bien aborder un petit peu le contexte dans lequel se fait la musique et pourquoi chaque scène a une spécificité un petit peu. Donc là, on vous parle de la scène locale de Harlem. Et c'est Jojo qui va s'y coller en faisant un petit tour du quartier, vite fait, au niveau historique, social, musical.
Voilà, exactement, histoire de situer un peu, de montrer un peu là où est-ce qu'on met les pieds. Donc Harlem, ça fait partie de Manhattan, à New York. Donc c'est un peu le centre de New York. Plein d'endroits à New York, c'est renommé d'après un village hollandais. Quand même un village qui s'appelle Harlem aussi, il faut le savoir. J'aimerais bien y faire un tour, un de ces quatre.
C'est une ville en Hollande.
C'est un lieu d'Amsterdam qui s'appelle Harlem. Ah, c'est avec A.
Ouais, bah c'est ça.
Harlem avec deux A. Ou deux E, je sais plus, mais je crois que c'est deux A.
Bah ça doit être ça. J'y suis pas passé pour le coup. Et donc, en fait, c'est à la fin du 19e siècle, au tournant du 19e et du 20e siècle, que le visage d'Harlem a changé, puisqu'il y a eu d'abord un problème de construction du métro qui a fait que c'était un peu difficilement accessible. Pour la population qui était d'abord bourgeoise à l'époque et qui à ce moment-là, ce qui a fait qu'ils ont commencé à déserter un peu cet endroit-là. Il y a eu aussi une crise immobilière qui a fait que les loyers ont beaucoup baissé, donc c'est devenu plus accessible pour les populations afro-américaines qui à ce moment-là fuyaient aussi les lynchages, etc., tout ce qui passait dans le sud. Donc la population est devenue à majorité afro-américaine à partir de ce moment-là. Ce qui a vraiment changé le visage, ce qui donne le visage, enfin, ce qui est l'origine du visage qu'on connaît aujourd'hui d'Harlem. Et entre les deux guerres, ensuite, il y a ce qu'on a appelé la renaissance d'Harlem, parce qu'en fait, Harlem, ça devient le centre névralgique de toute la lutte en fait, pour les droits des Afro-Américains. Tu as la NAACP, donc National Association for the Advancement of Colored People, qui s'installe là-bas. Marcus Garvey, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un activiste aussi très extrême qui est beaucoup repris, notamment par les artistes jamaïcains, parce que c'est un Jamaïcain. C'est un peu un des grands militants de la cause noire américaine et qui prône un retour dans les pays d'origine. Donc il y a vraiment un côté militant qui se développe. En même temps, il y a aussi toute une culture, vraiment la culture afro-américaine, elle est vraiment centralisée à Harlem. Il y a les grands noms du jazz comme Louis Armstrong, Duke Ellington, qui vont s'installer là-bas, qui s'y produisent. Il y a les grands clubs de jazz, les Cotton Club, le Savoy. Milton's Playhouse et Apollo Theater par exemple, enfin il y en a alors, beaucoup plus que ça, mais il y en a énormément, et c'est un peu à ce moment-là que dans les années 20, le jazz ça se développe, les années swing.
Bon, désolé, on a eu un petit crash, un écran bleu, comme on appelle ça dans le milieu. Donc on va peut-être reprendre où on en était avec Jojo qui nous parlait de l'histoire d'Harlem.
Ouais, je ne sais pas exactement à quel moment ça a coupé, à quel moment.
Bon, on parlait de Harlem, l'état totalement délabré d'Harlem.
Ouais, voilà, moi je t'avais dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, de la fin de la Deuxième Guerre plus jusqu'à la fin des années 80, ça s'est vraiment ghettoisé. Il y a vraiment des chiffres de pauvreté, de criminalité, de toxicomanie aussi un peu plus tard, après les années 70, qui ont vraiment explosé. Et donc, effectivement, des images qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet du quartier à la fin des années 80, c'est complètement délabré, ça ressemble pas à grand-chose, et ça donne pas envie, quoi, en tout cas. Et qu'aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal transformé aussi depuis les années 90, et que c'est devenu un peu aujourd'hui, c'est un peu considéré comme un quartier de bobo, Harlem. Donc voilà.
C'est en Brooklyn pour le coup, clairement été maxi-boboisé. Mais je sais pas si c'est une résultante de la politique de Giuliani là, et de sa zéro, de tolérance zéro reprise par Sarko.
Je sais qu'en dans les années 90, t'avais Bill Clinton qui avait installé son siège, le siège du parti, enfin en tout cas voilà, à New York, ce qui a quand même contribué à changer un peu la donne, quoi. Donc voilà, mais après, culturellement, ça reste encore une fois un centre important pour la culture afro-américaine. Il y a notamment au niveau de la lutte, Martin Luther King qui a fait pas mal de ses actions là-bas, Malcolm X aussi, toute la Nation of Islam s'est installée aussi à Harlem, donc ça reste un centre important. Et au niveau notamment cinématographique, il y a beaucoup de films de la Blaxploitation, donc les films des années 70 qui sont produits, donc par des noirs et pour les noirs, en fait, c'est un peu ça l'idée. En fait, généralement, ces films-là, ça se passe sur la côte ouest.
J'allais dire, on en avait longuement parlé en abordant la Bay Area.
Ouais, c'est ça. Il y en avait beaucoup à Oakland, il y en a pas mal à LA, et soit ça se passe sur la côte est, et généralement, quand c'est sur la côte est, c'est à New York et c'est à Harlem. Moi, j'avais vraiment cette image-là, avant, même avant le rap, je pense. Quand je pensais à Harlem, je pensais à cette image-là, des films, tu vois, qui parlent de pimp, de dealer de drogue, tout ça, genre tout ce qui est Shaft, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kofi, Black César, etc. Il y en a plein qui se passent la plupart du temps à Harlem. Donc en fait, toute cette industrie-là aussi, ça, c'est aussi en lien avec des écrivains comme Chester Himes, voilà, qui décrivent un peu ce côté un peu aussi fou d'Harlem, parce que c'est aussi l'image que j'en ai du... T'as l'impression que c'est n'importe quoi, que tout peut se passer, que tout paraît normal en fait. Le moindre truc complètement absurde, les gens sont pas surpris parce que c'est Harlem et que voilà, tu peux tout voir passer là-bas, quoi. Et donc voilà, moi c'est un peu cette image là que j'avais d'Harlem, et je propose du coup qu'on
se mette dans l'ambiance.
Qu'on se mette un petit son.
Wow,
la BO de Black César, donc qui était composée par James Brown, et donc le morceau Down and Out in New York City.
À tout de suite.
Yeah, man, like you know.
I was born in New York City on a Monday. It seems I was out trying to shoot by 2 to noon. All the bad cats and the bad hats doing me a real big favor. I got the bad cats and the bad hats playing it on real good. Yeah, the dime boy, give me a shine, boy. Oh, just... Try!
C'était donc James Brown avec Down and Out in New York City pour vous mettre dans l'ambiance de, d'Harlem. Donc, pour rappel, on vous fait une petite émission spéciale sur ce quartier de New York. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted. C'est Jojo qui avait commencé à nous parler du quartier et qui va continuer à nous parler, je crois, des, du début du rap.
Ouais, même on va parler un peu de rap. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'état des lieux. Alors en fait, les débuts du rap, on en avait déjà un peu parlé parce qu'on avait fait une émission un peu globale sur New York. Donc j'invite tout le monde à aller regarder ce qu'on avait fait à ce moment-là. Donc on avait fait vraiment la naissance du rap à la fin des années 70 et 80. À Harlem, il y avait des artistes comme Curtis Blow, Kool Moe Dee, Spoonie G, le groupe donc voilà, donc je vais pas plus insister là-dessus. Il y a quand même un crew qui est important de mentionner parce qu'il y a tout un tas de références dans l'imaginaire, enfin dans la culture afro-américaine et notamment à Harlem. C'est le groupe Mob Style. En fait, Mob Style, c'est un des premiers groupes, voire le premier groupe de gangsta rap sur la côte Est. Ça a été créé par le membre AZ. Ils sont trois, mais il y a AZ, Gangsta Lou, et je me souviens plus.
Ouais, avec Easy, du coup.
Avec Easy et surtout. Surtout, il y a un autre rappeur à plus tard qui arrive à Brooklyn qui s'appelle AZ, A.Z. Donc, bref.
Source d'inspiration, l'alphabet.
Il y a eu des débats sur le fait qu'il aurait jamais dû prendre ce nom-là. Bref, AZ, donc de Mob Style, c'est le personnage principal du film Paid in Full, qui est sorti un peu plus tard et que je vous invite à aller regarder. Donc voilà, c'est vraiment côté vraiment street. Il raconte en fait les histoires du quartier d'Harlem qui sont pas très un peu glauques, mais bon, qui sont vraiment des légendes urbaines de ce moment. Donc c'est un groupe important. Mais le rappeur que j'ai envie d'évoquer, qu'on aime en tout cas Momo et moi beaucoup ici, c'est Big L, donc qui n'a malheureusement pas eu la carrière qu'on aurait aimé qu'il ait, parce qu'il a disparu assez tôt. À la base, lui, il rappait depuis qu'il était jeune et il s'est fait repérer par Lord Finesse, qui était un peu le membre central du crew DITC. C'est un groupe du Bronx, DITC, dont il est parti notamment Fat Joe et plein d'autres rappeurs. Enfin, pour ceux qui aiment le rap de New York, DITC, c'est assez incontournable.
On a parlé durant l'émission,
oui,
sur le Bronx.
C'est vrai, on en a parlé. Donc je ne vais pas insister plus sur DITC. Mais Big L, voilà, il monte aussi un autre groupe qui est assez important à Harlem, même s'ils n'ont rien enregistré. Enfin, ils ont des sortes de bouclés qui sont sortis, mais il n'y a pas de sortie officielle. Le groupe qui s'appelle Children of the Corn, avec celui qu'on appelle Murder Mace à l'époque, qui deviendra Mace, et qui est aujourd'hui surnommé Father Mace.
Pasteur Mace. Donc,
carrière incroyable. McGruff, qui lui était un espoir un peu à l'époque, qui avait beaucoup de talent, mais qui n'a jamais vraiment confirmé. Bloodshed, qui lui, c'est un peu le membre le moins connu, il est mort assez rapidement. Et
c'est le cousin de Cameron.
C'est ça, c'est le cousin de Cameron, donc, qui se faisait lui à l'époque appeler Killa Cam, et dont Momo vous parlera plus largement tout à l'heure. Big L, en fait, c'est vraiment un rappeur hyper talentueux. Techniquement, il maîtrise tout, quoi. Au niveau du flow, il peut rapper sous différents tempos, il maîtrise complètement tous les rythmes. En termes de lyricisme, pareil, il a une écriture très très acérée. Il fait des rimes très riches, beaucoup de jeux de mots, il peut faire du storytelling, il peut faire plus de la grosse punchline. C'est un gros battle MC, il gagnait beaucoup d'argent en gagnant des battles à l'époque. Bon, c'était pas les battles qu'on imagine aujourd'hui comme rap contender, tu mettais une instru, tu avais deux rappeurs qui la découpaient et c'est celui qui était le plus incisif qui gagnait. Et il gagnait quasiment à chaque fois. C'était même Fat Joe qui avant de le connaître, il disait ouais, j'en ai marre qu'on me ramène des poucs là dans les battles, mettez-moi un mec sérieux. Et puis bah, quand il a entendu Big L, il a fait merde.
Comment je vais faire?
Comment je vais faire? C'est un énorme découpeur. Hein.
Ah non, c'est assez. Il a vraiment une présence au micro et c'est aussi un énorme freestyler, beaucoup de freestyle très connus. Et notamment quand il a accompagné d'autres rappeurs. Moi j'ai jamais vu un seul rappeur dans ces tablés là ou quand il faisait des freestyles à plusieurs. Jamais vu un seul rappeur être à la hauteur quand Big L lâche un couplet. Même Nas disait qu'il le craignait, qu'il avait peur de se retrouver dans la même pièce et de devoir lâcher un couplet après lui. Donc voilà, pour dire les références. Et la...
A priori, tout se présentait bien pour lui.
Tout se présentait bien pour lui. Le problème, c'est qu'il est un peu, il était un peu fou. Il n'avait pas envie de faire de concessions. Son premier single, c'est Devilson. Donc il annonce bien la couleur. C'est bien hardcore. C'est même lui, il proclame même que c'est du horrorcore et que c'est le premier rappeur horrorcore. C'est pas tout à fait vrai, mais en fait, que voilà, il est quand même dans cette vibe là. Le truc, c'est qu'il est repéré par Columbia, qui est un énorme label, et qui, eux, ils s'en foutent un peu de cette image street, ils veulent un truc plus édulcoré. Donc il arrive quand même à sortir son album légendaire, Lifestyles of the Poor and Dangerous, en 95, qui n'est pas un gros succès commercial, donc c'est aussi pour ça qu'il a des problèmes avec Columbia, mais qui, pour tous les fans de rap new-yorkais, c'est une énorme bombe, quoi. Genre, c'est vraiment le son new-yorkais, un peu glauque, un peu froid, un peu... Bah, assez agressif, assez crade et Big L qui dégoupe comme pas possible dessus.
Donc voilà. Sur des instruments un peu doux, enfin douce, tu vois, genre Putiton, c'est.
Ouais, je veux dire que c'est douce. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même un truc crasseux, je trouve.
Ouais, mais c'est la manière dont il dégoupe qui j'ai l'impression, tu vois. Mm-hmm.
Bah, Putiton, ouais, c'est le morceau mythique, le single phare de cet album-là. Qui, je pense, pour beaucoup de ceux qui le découvraient, c'est la première claque. Moi, c'est le premier morceau que j'ai entendu aussi.
Same shit.
Mais donc voilà, il se fait lâcher par Columbia qui essaie de faire des petites ristournes, de faire des couplets avec des artistes R&B ou de remixer ses morceaux. Il y a le morceau MVP justement de l'album qui est remixé en version R&B, enfin, c'est un peu dégueu. Et donc lui, il commence un peu à pas être d'accord, donc il se fait lâcher finalement, mais c'est pas plus mal. En tout cas, on le pense à l'époque. Il monte son propre label donc qui est Flamboyant Records parce qu'il est très flamboyant évidemment. Tout feu tout flamme et ça commence vraiment à se présenter bien. On parle d'un rapprochement avec Rockefeller, le label de Jay-Z et Damon Dash, donc on imagine que là ça va vraiment être chapeauté par des gens qui savent un peu mieux s'y prendre avec ce genre de phénomène. Il y a le single Ebonix qui sort, qui est un énorme single et qui commence à vraiment faire du bruit aussi, mais malheureusement il se fait tirer dessus juste à côté de chez lui en février 99. Et depuis bah,
ah,
la carrière est.
Ouais, il y a une fresque de lui, je sais pas si c'est à l'âme, mais il y a quelque part dans New York où genre, Rest in Peace.
Ouais, bah c'était aussi Gangstar qui est sur le morceau Full Clip qui avait commencé le morceau par des premiers qui dit Big L, rest in peace.
Bah, D.I.T.C. pareil. D.I.T.C. il est mort durant l'enregistrement du deuxième album et du coup ça les avait deg, ils ont quand même fini l'enregistrement. Alors qu'ils avaient dû l'enterrer, etc. Quoi, donc c'est
terrible. Ah, surtout dans chaque émission, de se dire qu'à chaque fois, quasiment, on a un exemple d'un rappeur qui.
Ouais, c'est clair, c'est une constante.
Regarde même Young Dolph là qui s'est fait.
T'as l'impression que toutes les deux semaines, il y a un nouveau mort en ce moment.
C'est horrible.
Assez tragique. T'avais fini ton petit tour sur Big L?
Ouais, bah après, comme tous les artistes un peu qui ont une renommée après sa mort, en fait, il est devenu connu finalement plus quand il est mort que quand il était vivant, et il y a une discographie posthume aussi. Je conseille quand même le premier album qui est sorti après sa mort, qui est The Big Picture, qui fait partie, c'était quand même vraiment un projet de l'album qui devait sortir, donc ça reste un peu cohérent, et il y a des très bons morceaux dessus, dont Ebonix, dont je peux y parler, et le prochain morceau qu'on va écouter d'ailleurs.
Ouais, bah tu parles des albums, donc pour un petit rappel pour les gens qui sont peut-être pas habitués, comme on est sur Twitch exceptionnellement, donc déjà en gros là c'est l'enregistrement de l'émission, donc vous pouvez suivre en exclusivité, l'écouter en exclusivité, mais elle sera donc diffusée la semaine prochaine en podcast comme on a l'habitude de le faire. On la mettra peut-être en vidéo aussi à droite à gauche. À la fin de chaque émission, on vous fera une petite sélection des albums à écouter, parce que souvent ça peut aller un peu vite aussi, on dit beaucoup d'artistes, beaucoup de noms, beaucoup de conseils, donc là allez écouter Big L et on vous fera une petite sélection d'albums à la fin. On s'écoute donc Flamboyante, qui est un hommage à Big L.
My big brother Big Lee holding it down. Flamboyant, baby, for life. We taking over.
No doubt.
Coming to a theater near you. Check it out. Come on, check it. Make sure my mic is loud and my production is tight. Better watch me round your girl if you ain't fucking her right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO. Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. And I'm straight, keep a Harlem world mind state. I never lounge where you find Jake. Surprise niggas like a blind date. L rhyme great, and I'ma increase the crime rate for old time's sake. Run with me and I'ma make you a star. When me and my crew hit the clubs, we go straight to the bar. Leave them empty. I cruise through Harlem in the M3. Never pay for parties, say my name and I'm M3. I'm on some 100G car shit, superstar shit. Selling niggas that wet shit, right out the jar shit. I'm dumb hot, I wreck you and your young flock. Keep the gun cop, represent one block. 139, nigga, the danger zone. We quick to put a bullet in a stranger's dome. I'm known to kick a rough rhyme and rock much shine. Yo, I'm out, I done took up enough time. We out, no doubt, you know how we do. Flamboyant for life. To your whole team ghost. Everywhere we go, we must bring toast forever. Popping the chrome, always dropping a poem. I can write it or recite it off the top of the dome. However you want it, that's how I'ma give it to you. Big L style. They brought it back to the streets, cause that shit sell now. So pal, back up a bit, give me some elbow space. I represent Harlem World, not Melrose Place. So I'ma lace the jewels up with nice baguettes. Flamboyant is the label that writes the checks. Y'all niggas better stop frontin', cause I might get vexed. Then I'ma run up on y'all and slice your necks with the machete. Pockets heavy, sling more cane than Eddie. I represent Uno Tres Nueve. Time is money, so I stay late. I'm quick to slide a playmate. Bust off like a Trey 8 and vacate.
Et on est de retour alors
transition
que
incroyable.
Radio Ems 93 vient d'arriver sur le live, ce qui nous permet de faire une dédicace. Allez écouter Radio Ems.
Totalement. Et qui est en pleine explosion. Là, je regardais sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Et donc,
gros taf.
Bonjour à Franck.
Bonjour à Franck. Ouais. Donc, notre émission est diffusée tous les vendredis de 20h à 21h, si je ne dis pas de bêtises.
Corrige-nous dans le chat si c'est faux, Franck.
Donc, normalement, Vous avez de quoi faire. Je retrouve, parce que c'est moi qui est censé parler dans cette partie, il me semble.
Et oui.
Et
ouais.
On a parlé de Big L et on va parler de
d'un seul personnage.
D'un seul personnage dénommé P. Diddy.
Ouh. Rien que d'entendre le nom, c'est
le prince de.
M'écorche les oreilles.
Le petit prince de Harlem, bien sûr. On peut l'appeler par chez nous. Et donc, on va faire un petit quiz.
Chaud.
Parce que j'avais fait ça dans la dernière émission.
Moi non plus.
Et c'était chiant de parler de P. Diddy sérieusement. Donc, oui, on voulait faire beaucoup plus drôle. Voilà, donc P. Diddy, qui est donc né à Harlem. Puff Daddy, Puffy.
Sean Combs de son vrai prénom. Diddy, Sean Didou, Chamallow.
Savez-vous d'ailleurs comment il se fait appeler aujourd'hui? Parce que c'est un peu la mode de beaucoup Puff changer D. de nom.
C'est pas juste Diddy, non?
Et non. C'est Diddy. Love. Brother Love.
Mais ouais. J'ai vu qu'il y a son fils aussi qui a un nom assez étrange. Je sais pas si t'as.
Son fils
Spaghetti.
Ah non, j'ai pas vu. Donc, P. Diddy, parfois raillé pour ses qualités limitées de rappeur.
Et de danseur aussi.
Voilà, mais c'est néanmoins, qu'on le veuille ou non, une figure du rap. Voilà, au-delà même, c'est une figure à Harlem, bien sûr, à New York. Aux États-Unis et dans le monde entier, bien sûr.
Merci de le recentrer.
Non, c'est vrai, je veux dire.
Il est connu, il avait une émission.
Qui, voilà, tu dis des noms et les gens.
Parce que les gens sont fans de P. Diddy dans le
culture rue. Les gens, bah justement, culture rue, P. Diddy, non, pas vraiment,
pas du
parce
tout.
Que c'est un entrepreneur qui dépasse, qui va dépasser largement la rue. Quelqu'un qui sent les coups dans le rap. Donc en gros, lui, il va directement. Il va pas faire une carrière de rappeur puis devenir producteur comme ça peut arriver.
Lui qui a, ah oui, le mari de Beyoncé, je pense qu'il y a confusion. Ouais.
Entre Jay-Z et P. Diddy, oui, exactement. C'est, alors, le mari de Beyoncé, c'est Jay-Z. Et P. Diddy, c'est le mari de je sais pas qui, mais.
On y viendra peut-être. On parlera un peu de sa vie privée mouvementée. Mais P. Diddy. Bon, on va donner un petit peu des noms. Suivez le quiz, vous allez voir, ça va arriver. Donc, et en fait, lui, il rentre directement dans la filière production où, tout jeune déjà, il va être employé chez Uptown Records. Où il va directement faire signer par exemple Mary J. Blige.
Oui, c'est pas mal comme
première signature. Il fait ça et puis finalement il se fait virer. Il commence aussi à organiser des somptueuses parties, quoi, genre des trucs incroyables, apparemment des milliers de personnes qui se déplacent. Déjà il sent les bons coups et après, donc du coup, il monte son label qui s'appelle
Bad Boy Records.
Bad Boy Records, label bien connu. D'ailleurs, pouvez-vous me citer quelques artistes, par exemple 5 artistes qui ont été signés ou qui sont signés?
Maze,
Junior Mafia,
Notorious Big.
Junior Mafia, non, je ne sais pas. Non.
Et comment il s'appelle?
Notorious Face Evans, qui est donc le plus connu, on y reviendra.
Face Evans, B2K.
Non, non.
Quoi? Genre non. B2K et Face Evans sont pas signés.
Face Evans, si, bien
si,
sûr.
Merci, pardon, voilà. Et il y avait l'autre, là, la rappeuse.
Je me demande s'il y a
Foxy
pas
Face Evans qui était la femme
de Biggie.
Foxy Brown, tout à fait.
Moi, je crois qu'il y a 8Ball et MJG qui sont passés par là.
Sérieux, ah, mais c'est curieux.
Ils ont fait un album qui est dégueulasse, mais c'est leur pire album, forcément.
Oui, ça ne donne pas.
Voilà, et dans les plus récents, il y en a une qui a notamment été sa femme pendant très longtemps, d'ailleurs.
Jennifer Lopé?
Non, mais ça, on y reviendra. Cassie.
Ah oui, Cassie, il est vrai.
Qui n'aura pas une grande carrière.
Me and you.
Voilà. Merci pour le sub d'ailleurs à Roussane et Tunoni, merci d'être là également.
Shout out à Kex et à Nostu.
Oh là là, ça lance des. Ah oui, des primes carrément.
Ah ouais.
Oh là là. Deuxième prime de la journée.
C'est incroyable.
Donc n'hésitez pas à participer au quiz également à distance. Donc vous avez trouvé quand même pas mal de monde dans les plus récents. Vous en avez pas là des récents un petit peu?
Oh là, je t'avoue.
Il y en a notamment un qui a un lien particulier avec la France quand même.
French Montana. Eh oui, j'avais oublié. Coke
et,
Boys Records.
Machine Gun Kelly, par exemple. Machine Gun Kelly aussi.
Sérieux?
Ouais, tout à fait.
Qui s'est clairement fait rooster par Eminem.
Et après, il a aussi collaboré avec plein de monde. Lil Kim, Maria Carey, R. Kelly, L. Cool J.
Lady Love Cool James, quoi.
Donc, tu l'as dit, il va notamment, si tu veux en dire deux mots, c'est lui qui lance la carrière de Notorious B.I.G. du coup. On peut le dire.
Oui, bah c'est lui qui, oui, c'est clair, en fait, il fait passer. Le cap à Notorious B.I.G. et c'est moi j'associe un peu P. Diddy à la Shiny Suit era, ce qu'on appelle la Shiny Suit, quoi, parce qu'il y a vraiment ce côté mafieux, cigare, Belle Sap, tout ça, quoi, qui est associé avec Biggie, qui change un peu aussi le personnage de Biggie qui était très street.
C'est ça.
Et il y a eu aussi une sale phase où il se déguisait dans des joggings immondes là dans ses clips, genre en rouge, en vert. Genre il essayait d'édulcorer un peu, de popiser.
Donc il était vraiment très proche d'ailleurs de Notorious B.I.G., de ce que j'ai compris, ouais. Et donc de sa femme aussi, former un petit. enfin, professionnellement parlant, bien
oui,
sûr.
Oui, bah écoute, non, mais ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est, ça reste dans le cul, mon gars.
Voilà, donc il lance sa carrière, et bien sûr, bah, quand le plus tragique arrive, c'est-à-dire la mort, bah, il est vraiment affecté, et du coup, dans la foulée, il sort un album. Il est terriblement affecté, mais il sort un album, le premier album de P.I.G. Donc on va venir plutôt sur son rôle de rappeur. C'est là où ça va devenir intéressant. Premier album qui s'appelle, vous savez, non ?
All the Family, ou je sais pas.
Non, pas du tout, c'est No Way Out.
No Way Out, mais ça, oui, c'est parce que c'est P. Diddy and the Family.
Qui sort fin des années 90, il me semble. Qui est un gros album commercial, oui. Qui a un gros succès aussi d'ailleurs.
L'album chorale.
Il est nommé 5 fois à la.
Est-ce qu'il y a Albin Missing You dedans ? C'est dans cet album-là ?
Pardon ?
Albin Missing You.
Je pense que c'est plus tard.
Je l'ai pas sous les yeux, mais du coup, il fait 7 ou 8 fois platine depuis la, à l'heure actuelle. Il remporte un Grammy Award, etc. Donc, bon, est-ce que vous avez écouté, non ?
Non.
J'ai dû l'écouter, mais j'ai trouvé ça assez horrible.
Voilà, parce qu'il faut le dire, il n'est pas réellement connu.
C'est trop long, il y a 20 morceaux, je crois. C'est
Machine Gun Kelly, Megan Fox.
Oui, merci. Ah, on est dans un jeu de trouver la femme de.
On va venir un petit peu sur la femme. La femme 2. Donc oui, pas très bon rappeur.
Non.
Néanmoins, ça marche. Pourquoi ?
Parce qu'il sait s'entourer des meilleurs producteurs, j'ai envie de dire. Enfin, à mon avis, c'est ça. Il a dû ralasser un maximum de bifetons. Et...
On va dire que c'est pas un bon rappeur, mais oui, il va sans doute sentir un peu bien les
choses. Il a le réseau aussi.
Voilà. Oui, je pense que c'est ça, ouais.
Du coup...
Bah non, mais genre sur l'album Midnight... Enfin, je sais pas si on va reparler après, mais... Il y avait Timbo dessus. Enfin, il met les moyens quand il fait des albums, je pense.
C'est ça, donc ça marche, puis on a tous entendu des tubes, globalement même en France, où Diddy était présent, rarement tout seul, et rarement très bon. D'ailleurs, vous savez à peu près combien d'albums, enfin pas à peu près combien d'albums il a sorti ?
5, je dirais.
Ouais, au total. Tout à fait. Ah, 97, du coup, le premier, 99, 2001, 2006 et 2010. Je crois qu'il travaillait sur un nouvel album, et je crois qu'il n'est jamais vraiment sorti.
Tant mieux.
Vous avez aussi attendu que Detox.
Rien à relever dans sa carrière musicale. Pour vous, pas de trucs marquants.
Bah si, il a quand même sorti une émission de télé à un moment d'ailleurs où tu le suivais, je sais plus s'il virait des gens, c'est passé sur MTV. Ça c'était mon grand moment de vie où je regardais des clips et des émissions cheloues sur.
Oui parce que bon voilà, on va plus passer sur carrière rap, mais en gros c'est un entrepreneur. Ah, donc.
Ouf. Il a sorti une marque de boisson, il avait une marque de sable, j'ai oublié, Passion.
Bah
c'est. C'est Sean quelque chose, non ?
Qui est normalement tout ce qui est textile, rap,
tout ce qui est textile et clairement chemise en flanelle.
Sean Jones,
voilà, exactement.
Qu'il a d'ailleurs revendu, je crois, parce que j'ai vu qu'il attaquait sa propre marque il n'y a pas longtemps encore pour leur prendre de l'argent.
Mais c'est ça qui a fait qu'il a eu le bif un peu comme Jay-Z d'ailleurs. Qui lui aussi a une marque de cigares, une marque d'alcool.
Voilà, c'est
une
un peu quand on pense au modèle entrepreneur, on va dire, c'est on pense à Jay-Z et à P. Diddy, quoi. Parce que plus que les autres encore, après 50 Cent, tout ça, vont s'y mettre, mais en vraiment modèle dans les précurseurs à ce niveau-là.
Je pense qu'il y avait Master P. À la base des bases.
Mais moins mainstream.
Il a une dimension assez énorme. Ouais, il fait partie vraiment des plus fortunés au niveau des musiciens et même plus généralement. Il dirige des restaurants, tu l'as dit, des mâles. Il a lancé des parfums, etc. Il a été acteur avec plus ou moins de succès. comme c'est souvent le cas.
Il a été acteur.
Je crois que c'était lui qui faisait la BO de Godzilla. En
fait. C'est ça, tout à fait. Je l'avais pas mis, mais je pensais pas que tu avais.
C'était sûrement ma première rencontre avec Fizzy.
Si, je me rappelle, oui.
Si, ouais. Il a joué des films, il a été joué lui-même par d'autres acteurs dans des films. Voilà, tu parlais tout à l'heure un petit peu de ça.
Quel génie, putain.
Du fait qu'il sait s'entourer, tu sais qu'il avait formé un super groupe de producteurs.
C'est pas The Runners ? Non, pas The Runners.
Non, The Dream Team. Il avait fait The Hitmen à un moment. Alors j'ai pas très bien compris parce qu'il a fait The Hitmen et il a fait The Dream Team qui regroupait notamment donc Diddy, Rick Ross, DJ Khaled, Busta Rhymes, Red Café et Fat Joe. Voilà.
Attends, les trois premiers basses que tu as sortis, ça me fait peur quoi. Bah, Rick Ross, DJ Khaled,
ouais, Diddy.
Sachant que du coup il a monté ce truc-là, mais je n'ai pas vu du tout ce qu'ils ont fait concrètement.
Non, mais il doit avoir des parts, des royalties, des trucs, il y a son nom qui doit être.
Voilà tout ce que j'ai trouvé un petit peu sur lui. Alors peut-être un événement marquant dans sa vie, c'est ce qui s'est passé en 99.
Jennifer Lopez.
Bah, justement, qu'est-ce qui se passe en 99? Il est avec J-Lo, ouais. Quand même, donc c'est un peu le couple star à l'époque, le power couple comme on l'appelle.
Ouais, c'est l'ancêtre de Beyoncé et Jay-Z.
Voilà, exactement.
Ah, lui a montré la voie là-dessus,
ouais. Il va en boîte de nuit et là qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il se fait embrouiller, une sombre histoire. Donc il est avec son Shine. son jeune protégé.
Si, si, Shine, avec un Y d'ailleurs.
C'est ça, tout
à fait. Il se clash 50 Cent Shine en direct de prison. Non, mais vraiment, genre, il le clashait pendant qu'il était en prison. Et...
Parce que du coup, les techs sont protégés, Shine et donc Jello. Et là, ils sont en discothèque, ils sortent de la discothèque, et apparemment, ils se font embrouiller. Et là, ça se tire dessus assez violemment.
Il retourne se cacher.
Il s'enfuit en voiture avec Jello, il se fait poursuivre par les flics, il roule, il presse des feux rouges, etc.
Tambour battant.
Il retrouve des armes volées dans la voiture. Donc, c'est ça que j'ai. C'est pas non plus un enfant de cœur, peut-être totalement. Apparemment,
pas.
Il a quelques histoires.
Bon,
il
s'est embrouillé
notamment avec la West Coast. À un moment, il y a toute l'histoire, donc je suis pas revenu dessus. Mais,
entre Pac et Biggie.
Voilà, exactement. Où il était clairement aussi dedans. Bref, du coup, il se fait accuser. Donc, cette histoire lui fait un gros coup. Déjà parce que Jello le quitte. Parce que du coup, en fait, il est accusé, il est arrêté, il est mis en prison. Il aurait soudoyé des témoins en leur proposant notamment 500 000 dollars, je crois, pour changer la version. Finalement, c'est Shine.
Qui vend 11.
Contrairement au moment où ça se tire dessus gentiment. Oui, c'est vrai que c'est rarement gentil. Je parlais tout à l'heure des tragiques fusillades. Je croyais que tu avais coupé le son d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, il se fait arrêter. Bien sûr, c'est Shine finalement qui prend tout pour lui et ses gardes du corps, l'arme, tout ça. Et puis Didi ne va pas en prison. Mais c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de nom.
C'est un vrai mafieux.
Voilà à peu près tout ce que j'ai trouvé sur lui. Finalement, c'était pas.
Il n'a pas fait un truc au Super Bowl à tout hasard ou... Non, je sais pas, je pose la question. Mais...
Non, franchement, finalement, c'est juste un rappeur entrepreneur.
Je sais voilà. Que tu le vois danser avec B2K dans Bum 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 ou je sais plus dans quoi.
Tout à fait, il nous a fait des bons groupes. Je crois qu'il aimait beaucoup les groupes de. Je sais pas comment ça s'appelle ça.
Les Boys Band.
Les Boys Band, voilà, tout à fait. Il en a lancé pas mal. Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite un son, comme ça on arrête de parler de P. Diddy et on retourne à des vrais rappeurs. On s'écoute Been Around the World avec Diddy, Maze et The Notorious.
Yo, this Maze, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me rich. You got niggas that's mad cause I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, those PhD niggas. But you know, I pop a lot of shit, but I back it up, though. See, there's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't make hits. But it's like, this whole bad boy shit, we come to bring it to y'all niggas. Me, B.I., Puff, Lox, whoever, Black Rob. If you wanna dance, we dance. Now, trick what, lace who? They ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that. Funny, never find that. Puff a dime sack, write hot shit. Make a nigga save a wine that. Niggas know, you go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay, my tent smoke grays, no way. Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a championship.
Come on. Been around the world and now yeah. We been clear, you hate it. I don't know when, I don't know why. Why they want us faded. I don't know why they hate us. Is it our ladies? Or trying to fade in? Baby, baby.
I was a one bedroom. Dreaming of a million, now I'm in beach houses, cream to the ceiling. Right. I was a gentleman living in tenements. Now I'm swimming in all the women that be tense. Went from bad boys to the crushed linen men. Now my dividends be the new Benjamins. Hoes of all complexions, I like cinnamon. Mate, you got some hoes, well nigga, send them in. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck.
Nah, Puff, that's a bitch.
Mercedes, come here, baby. You don't like it where it's hot and hazy. Never shady, must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching B's with a wrist full of G's, nigga, please. I'm the macaroni with the cheese.
Been around the world and I, yeah. We been player hated. I don't know when, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Is it our ladies?
Yeah.
Or drop the fading. Baby, baby.
Now, fuck through the world, even though
I'm young, I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah. Get them all strong from the tip of my tongue. Licking places niggas wouldn't dare put their face. Before I die, hope I when they could float by. In the brand new treads on the old chai. Never my throat dry, even when I smoke lot. Eat the mommy cho-cha and drive a low tie. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days couldn't be fly, now I'm in a T.I. Coming clubs with B.I., now a nigga V.I. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll the way you wanna roll, break 100 at the toll.
Playing around the world, we been player hated. I don't know why they want us faded.
C'était donc Didi, vous avez pu voir.
Been Around the World de
un bon rappeur.
Puff incroyable de Didi, Pastor Maze et PS on aime B.I.G. quoi.
Momo, c'est toi qui vas reprendre la parole pour nous parler des diplomates.
Et on va pas parler de politique exactement. Diplomates, groupe ô combien foufou et connu de Harlem, mais je pense des aficionados de rap, mais peut-être un peu moins du grand public. Alors, je vais pas faire de comparaison offusquante entre. Enfin, avec
offusquante.
Les mots, offusquante. Voilà, j'ai utilisé ce mot-là. Vous allez voir, il y en a d'autres du genre qui vont arriver. Mais voilà, je vais pas faire de comparaison un peu offusquante avec le Wu-Tang, mais clairement, les diplomates ont une influence incroyable sur New York. Et dans mon monde, c'est le chaînon manquant justement entre le Wu-Tang et Ghetto Fabulous Gang pour les plus connaisseurs d'entre nous. Donc c'est pas. Voilà. Comment ?
Les plus aventureux.
Les plus aventureux, voilà. Shout out à Orozco, à Sean de Holocaust et à Monsieur Badara, bien évidemment. Donc c'était pas forcément au niveau technique rap pur et dur qu'ils ont fait la différence, même si bon, t'as quand même des bons rappeurs dans le thème, mais c'est plutôt dans le lifestyle, dans l'état d'esprit, dans le discours. Et aussi parce que ils émergent à un moment, désolé pour le bruit, où il y a clairement le rap du Sud qui est en train de take over, de prendre de la place, Atlanta aussi, et eux sont là à représenter New York avec un autre groupe, enfin, on va pas parler aujourd'hui, dont on a déjà parlé, mais qui est G-Unit. C'était clairement un peu une espèce de rivalité entre G-Unit et les diplomates. Donc, eux, ils ont un adage chez les diplomates, ils disent « deep set », donc c'est « ou soit diplomate, ou soit deep set » d'ailleurs. Ils disent « it's more than music », et ils vont même sortir d'ailleurs un album en 2005 qui portera son nom.
C'est un peu comme le Barça en fait.
C'est ça, c'est Mesque et Un Club. Merci, c'était vraiment la meilleure comparaison possible.
Ouais, je sais que ça te plaît.
Alors, je dirais rien sur le FC Barcelone. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un peu tout ce beau monde et on va naviguer entre rappeurs, revenir sur moult anecdotes très cheloues, des blagues foireuses, pas mal de références musicales. Et je vais vous présenter du coup Cameron, Jim Jones, Jules Santana et Freaky Zeki. Et oui, c'est que des noms chelous. Donc Jojo, on a parlé très brièvement, il l'a évoqué effectivement, la tête d'affiche des diplomates, c'est Cameron, aussi appelé Killer Came. Et donc c'est un mec qui a quand même un CV très solide puisqu'il faisait partie de Children of the Corn avec Pastor Maze, Bigel et deux autres personnes, McGruff et Bloodshed. Pelle Ram, en tout cas à Bloodshed, mais voilà, donc il commence très tôt le rap avec des pointures. Il va se faire repérer par Biggie en 98 via Maze qui lui présente et qui va vite être impressionné par les talents de Cameron. Et du coup, il va enchaîner deux albums. Pardon, j'ai envie de rire parce que le deuxième album de Cameron est quand même un nom très drôle. Donc le premier s'appelle Confessions of Fire. Bon, c'est un mec street. Deuxième s'appelle SDE, c'est genre Sports, Drugs and Entertainment, donc sport, drogue et divertissement. Voilà, donc sa cote monte entre voilà, 98 et 2001 dans le rap US, et il va exploser en 2002 avec son troisième album qui s'appelle Come Home With Me. Et cet album sera produit sur
Rock Affair.
Exactement, label de Karim Biggs, Damon Dash qui est une grosse tête dans le rap US et Jay-Z. Donc c'est un label qu'ils ont confondé à trois. Et donc il va quitter Sony, un peu comme Bigel finalement, donc il quitte Columbia. Cameron va quitter, va quitter Sony pour des raisons artistiques. Il va rejoindre un roster qui était déjà bien composé à ce moment-là de Rockefeller, puisqu'il y a Jay-Z qui rappe dedans, il y a Memphis Bleek, et Benny Siegel et Freeway, ouais, ouais, dont on avait parlé dans l'émission de Philadelphie. Et donc cet album-là, Come Home With Me, pardon, pas très fort sur l'anglais aujourd'hui, bah, va cartonner totalement avec deux singles assez fous qui sont Aima et Oh Boy. Et via cet album aussi, ça va permettre à Cameron d'introduire petit à petit tous les membres de Deep Set, et petit à petit aussi un duo de beatmakers qui va suivre la carrière du groupe et qui s'appelle les Hitmakers. Alors pour la petite histoire aussi, il y a Kanye qui a produit sur l'album sur cet album là,
ouais,
et
il est même sur plusieurs albums, je crois qu'il y a des prods de Kanye.
Il est sur un album sur
ouais,
Purple Haze aussi.
Même, tout ce qui est Just Blaze, tout ça, c'est un peu ce type de prod qu'on appelait Chimp Memo Soul, non, c'est ça. Enfin, tu vois, genre Oh Boy, tu sais, c'est des voix pitchées, ouais, un peu, genre tous ces trucs là.
Qui est clairement la caractéristique de Kanye à ses débuts, où c'était du sample et des voix pitchées. Et il avait été signé sur Rockefeller avant de sortir son premier album en 2004, College Dropout, donc il était plus beatmaker qu'autre chose. Il faut savoir que le succès de Cameron, il est dû à pas mal de choses, en tout cas à plusieurs aspects. C'est quelqu'un qui est très nonchalant, genre qui rappe avec une voix nasillarde, et ça s'écoute très bien. Il fait énormément de jeux de mots, et c'est un mec qui a énormément d'humour dans son rap, ce qui contraste finalement avec l'ultra sérieux de Jay-Z à ce moment-là, et 50 Cent, qui sont clairement dans le culte de la personne et qui sont des espèces de voyous qui renvoient pour Jay-Z une image de mafieux, et pour 50 Cent une image de... Genre si tu lui parles, il te tue en fait, il n'y a pas du tout de second degré. Il a un argot très caractéristique d'Harlem et aussi un fashion style. Et c'est des choses sur lesquelles on reviendra un peu plus tard, parce que pour le coup, tout diplomate, ça a marqué le rap US à travers ce moment-là. Notamment aussi Cameron, qui a participé à la campagne Stop Snitching. Alors snitcher, c'est en gros balancer. Et il y a une interview légendaire de lui dans un truc genre façon 60 minutes ou un machin, ou 7 à 8, où il y a un mec, une personne qui l'interview, lui demande, mais même s'il y avait un... Enfin, il dit ok, je comprends, vous voulez pas balancer et tout, mais s'il y avait un serial killer qui avait tué plein de gens qui vivaient juste à côté de vous, vous n'iriez pas le dire à la police. Il lui dit non, par contre, c'est sûr que je déménage. Donc pour te montrer à quel point le mec...
Il y avait une campagne Stop Snitching.
Stop Snitching, ouais. Je sais pas si c'était uniquement dans le rap ou dans les rues, mais... Mais ouais, il y avait tout un délire, genre les mecs, on arrête de se balancer entre nous parce qu'on se fait du mal dans notre communauté afro-américaine. Et pas le temps de niaiser, là je vous parle de Cameron, mais du coup, comme je vous le disais, comme With Me, ça a permis d'introduire pas mal de personnages de Deep Set, et ils vont capitaliser sur le succès du troisième album de Killa Kem en sortant le premier album des Diplomates qui s'appelle Diplomatic Immunity en 2003, toujours sur Rockefeller. Et je bug parce que j'étais en train de regarder une chose, mais effectivement c'est un album qui sort en même temps que le Beg for Mercy de G-Unit, et donc comme je vous le disais, il y avait vraiment une espèce de rivalité et une image qui était totalement opposée entre les deux groupes. Et c'est une chanson aussi de Drake, parce qu'il faut tout le temps qu'on parle de Drake dans une émission, et c'est un super son d'ailleurs qui s'appelle Diplomatic Immunity. C'est un énorme fan de Deep Set, de Jules Santana aussi.
Il est fan de beaucoup de choses.
Quand il pompe pas, il est fan, quoi, en tout cas. Et donc l'album, c'est une réussite, en tout cas dans les canons du genre. C'est un album qui contient l'hymne Deep Set Anthem. Parce qu'il y a pas mal de groupes qui ont eu leur petite anthème comme ça. Il y avait Rough Riders qui l'avait fait et tout. Et c'est un album qui permet finalement, tu vois, de distiller un peu tout le lifestyle de Diplomate. Moi, je trouve que les sonorités, elles passent bien aujourd'hui encore. On réécoutait des trucs qui me disaient que ça sentait un peu daté. Moi, je trouve que passe tout, alors je suis resté dans les années 2000 dans ma tête, ce qui est fort possible. Tu vois, il y a un côté très soul food.
Je dirais pas que c'est daté, non, je trouve que ça vieillit pas trop mal. Après, moi, perso, c'est quand même pas ce que je préfère, ce genre d'instru-là. Donc, voilà, je suis pas très fan. Par contre, je trouve pas que ça ait spécialement vieilli, quoi. Notamment Deep Set Anthem, je trouve que ça, comme tu dis, vu que c'est des samples et tout, ça passe toujours bien.
Je regardais les tracklists de leurs albums, et en tout cas de leurs sons, et je crois qu'il y a un sample par chanson, quoi. Ils sont fait plaisir. Et il y a aussi un côté très militaire dans les rythmiques, genre en mode en marche, on est en mode en train de lancer un mouvement, genre un état d'esprit et tout, et moi je trouvais ça très stylé. Du coup, c'est toujours pas le temps de niaiser, puisque là j'enchaîne un petit peu sur les différents personnages de Diplomates. Et il y a Jules Santana qui est clairement l'autre personnage phare des Diplomates, en tout cas d'un trio Cameron, Jules Santana et Jim Jones. Et il va sortir son premier album en 2005, donc peu de temps après, qui s'appelle From Me to You. Non, ça c'était en 2003, je dis des bêtises, il le sort la même année, c'est en 2005 qu'il sort son deuxième album What's the Game Been Missing. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié dans le game pour plein de raisons. Pour la partie style, on y reviendra après. Et c'est quelqu'un qui faisait souvent des feats et tu vois qui impulsait vraiment une énergie sur les feats, donc les gens aimaient bien feater avec lui. Il se faisait pas nécessairement manger sur les feats, mais tu vois, ça ramenait un truc. C'est quelqu'un aussi qui faisait énormément de... Je dis pas que c'est le premier, tu vois, mais il faisait des rimes à double sens. J'en ai noté une qui m'a énormément fait rigoler, qui... très douteuse en même temps, où il dit « I cover my girls with cheese like nachos », donc tu t'en tires ce que tu veux, mais je recouvre mes femmes de fromage comme les nachos. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, et c'était quelqu'un qui était aussi dans la punchline arrogante.
Cheese étant l'argent, du coup.
Comment ?
Cheese étant
l'argent, et cheese étant le fromage sur le truc très imagé, et cheese étant sûrement d'autres choses que je vous laisse imaginer. Mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et c'était quelqu'un qui était aussi dans vraiment en mode mixtape, parce qu'il avait bombardé le game à un moment avec sa série de mixtape qui s'appelle Back, Like Cooked Crack. Très belle assonance. Et on reparlera aussi du monde des mixtapes un peu plus tard, parce qu'ils ont eu clairement un impact là-dessus. Et le dernier larron, c'est Jim Jones. Là, je voulais citer qui, Jim Jones, qui tout le monde surnomme le capot. D'ailleurs, donc, c'est peut-être pour ça qu'il partage son nom avec le leader spirituel de la secte du Temple du Peuple, qui s'appelait Jim Jones aussi, donc je sais pas si c'est tiré de ça ou pas. Et moi, je me rappelle à l'époque, fut un temps, donc peut-être des gens dans le chat, des potes à moi qui se rappellent de moi quand j'avais 14 ans et que je portais des t-shirts quadruple XL, des casquettes brodées aux équipes de la NBA américaine et des grandes vestes beaucoup trop grandes pour moi. Mais moi, je l'avais découvert à ce moment-là en battant des clips sur MTV. J'ai passé énormément de temps sur MTV dans ma jeunesse. Il était énormément en guest sur des clips, tu vois, il rappait pas, etc. Et je me disais, mais c'est qui ce mec. Et donc, je me le suis pris un peu en 2006. Tu t'en rappelles à ce moment-là, donc, avec le single We Fly High, Ballin, entre parenthèses, parce qu'il y a même des adlibs dans les titres de ses chansons. Et il avait sorti un premier album qui s'appelle Welcome to the Church en 2004. Et c'est vrai qu'on s'était quand même bien enjaillé avec We Fly High. Et en fait, il a explosé en 2006 avec ça, à l'époque des ringtones. Tu sais, il vendait. Il y a eu tout un marché à un moment dans le rap US de la sonnerie de téléphone. Il y a des mecs qui se sont fait connaître comme ça. Maintenant, tu te fais connaître sur TikTok via un son.
We Fly Remix d'ailleurs.
Ouais.
Mais il y avait Didi dedans.
Il y avait Didi dedans, exactement. Il y avait, je sais pas, bah oui, parce qu'il jette des. Il joue au baseball avec des liasses de billets. Dans quel état d'esprit ils sont. Mais oui, donc il y a eu un moment un business de ringtone, c'était assez fou. Et je crois que Chamillionnaire avait cartonné avec ça à l'époque, d'ailleurs, avec They See Me Rolling. Bref, je vous avais. Ouais, genre ça se vendait de ouf, quoi. Et donc, alors bon, Jim Jones, c'est pas un excellent rappeur, mais il y a plusieurs choses qui ont fait son charme. Et je pense que j'étais déjà fan des adlibs à l'époque, il en utilise énormément. Je pense que c'est un mec qui les a. Alors, les adlibs. Expliquer ça techniquement, c'est genre vraiment un petit mot ou une petite phrase qui va venir conclure.
Ouais, souvent avec un autre style de. Comme l'enregistrement, ils mettent un petit effet dessus, du coup ça paraît un peu.
En retrait, ouais.
En retrait, un peu derrière.
Ça vient compléter un peu la phrase, mais la phrase se porte très bien sans qu'il y ait de la bible au final.
C'est devenu de plus en plus important maintenant.
Je veux dire, t'écoutes Niska, il a fait sa carrière. Voilà.
Nico, c'est Monsieur Adlib, clairement, tu vois, Migos. Migos, c'est super rappeur, attends, je fais
ça. Ok, donc il fait. Donc c'est le roi de l'Adlib, c'est ça ?
Bah, le roi de l'Adlib, en tout cas, il a un peu.
Il a propulsé un nouveau level.
Ouais, il l'a propulsé à un nouveau level, et c'est un mec qui était dans le compte de rue, un peu, tu vois. Donc l'écouter, c'est un peu faire une visite. Guidé d'Harlem. Alors, je pense aussi que ce qui a fait son succès, c'était le fait qu'il était un peu affilié aux Bloods à un moment, et au groupe, enfin pas au groupe, au gang, pardon. Et du coup, ça lui a attiré un peu la sympathie des gens dans le game. Alors, je vous ai parlé de Freaky Ziki à un moment, j'en parlerai pas du tout durant l'émission parce que je sais très peu ce qu'il a fait à mettre en feat ou être sur les pussycats du groupe. Il y avait aussi un autre rappeur qui s'appelait LRL, Fortical, JR, Writer.
Ils sont là pour croquer, quoi.
Ils sont là pour croquer, ils sont venus grossir les rangs de la team petit à petit. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Je pense qu'il y a des choses sympas, mais c'est pas non plus les rappeurs du siècle, quoi. Ils faisaient partie du mouvement, mais voilà. Alors, je vous parlais du lifestyle de Deep Set tout à l'heure, et pour moi c'est, ça se retrouve particulièrement sur, sur trois aspects. Au tout début de leur carrière, ils étaient vraiment critiqués, ces mecs-là, enfin, les mecs de Deep Set, parce qu'ils avaient vraiment un humour très misogyne, très salace. Ils faisaient des skits, ouais, c'était un peu scandaleux, et ils ont fait aussi quelques références très mal senties sur le 11 septembre, donc ils se sont fait reprendre de voler un moment où ils disaient, enfin, il y avait pas mal de gens et des journalistes qui étaient paspés, genre des mecs du Guardian, etc., qui disaient que c'était vraiment, vraiment de la soupe, c'était immonde, c'était pas du tout à écouter, quoi. Mais comme je vous le disais, ils ont marqué le rap sur trois aspects, le rap US et même je pense en France d'ailleurs, notamment sur les mixtapes, j'en parlais un peu plus tôt, et sur les films. Alors le marché actuel de la mixtape, enfin en tout cas actuel, mais il a explosé un moment dans les années 2005-2010, et enfin, l'explosion de ce marché-là est en partie due à Deep Set. Ils n'ont pas du tout créé le mouvement de la mixtape, mais ils l'ont changé parce qu'avant une mixtape c'était plein d'artistes différents, un DJ qui hostait la mixtape, qui criait dans son micro tel DJ drama, et voilà quoi, ça permettait de te faire connaître auprès d'autres. Bah eux ils ont fait des mixtapes de leur propre groupe, gérés en indé, le tout en mode maison avec des singles dedans, des enregistrements dégueulasses, mal mixés, voire pas du tout, et ils distribuaient ça dans la rue. Et donc ça, ils ont changé la manière d'aborder la mixtape en mode indé. Ils ont eu tout un délire aussi autour du street cinéma, notamment, on en parlait tout à l'heure avec un film qui s'appelle Kill la Season,
absolu, dont Jojo peut nous parler. Cameron, en fait, c'était en parallèle, il sortait l'album Kill la Season et il a sorti un film Kill la Season. Et pour ceux qui aiment les nanars de rap, c'est un pur bijou, enfin, c'est vraiment filmé à l'arrache, c'est dégueulasse, je sens qu'il n'y a aucun professionnalisme et l'histoire est très très drôle. Et enfin, il y a des scènes complètement lunaires, quoi. C'est vraiment très drôle. Faut aimer, il faut avoir 2 heures de temps quand même devant soi, parce que ça dure 2 heures. Mais si on aime un peu ce genre de conneries, c'est assez incroyable.
Moi, je pense que tu fais pas des nanars n'importe comment. Moi, ils ont tourné aussi dans Pain in Full, dans les State Properties. Et je vous laisse vous renseigner là-dessus, mais State Properties, c'était des films tournés avec tous les membres de Rockefeller. Il y avait peu de moyens, il y a que des rappeurs dedans.
Pain in Full, c'est quand même un vrai film.
Oui, oui, dans Pain in Full, oui, pardon. State Property, c'est comme le film de Morsay en version évoluée, quoi.
Ouais, bah c'est pareil, Kill la Season, c'est un peu le même genre, quoi.
Donc c'est peu de moyens, la vie du ghetto, on tente d'être des mecs du ciné, et voilà. Il y a eu le Fashion Moment aussi. En gros, ils sont arrivés avec un délire, je disais, 50 Cent, etc., etc. Ils arrivaient avec leur mode de très gangsta, gilet pare-balles, machin. Ils sont arrivés dans un délire tout à fait différent, parce qu'ils venaient habiller, genre... Cameron, il est venu habillé au BET Awards, je sais plus où, genre tout en rose avec des Timberland roses, dans une voiture rose. Il avait des boucles d'oreilles, c'était des Golden Grams, gros, genre c'est comme ça, tu vois, genre c'est un style, mais vraiment très lol. Jules Santana aussi, tu vois, genre il a relancé un peu la mode du bandana. Les mecs, ils avaient des outfits de fou, et c'est à New York, c'est vraiment très bresson, tu vois, c'est très gris, on est très sérieux. Eux, ils sont arrivés avec un délire tout à fait autre. Jim Jones qui a remis les cheveux longs un peu à la mode. Il s'est stressé pas, il s'est laissé tomber, et voilà, il s'habille un peu en rockstar, chose qui se faisait pas dans le rap, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu décoincé le rap à New York et le reste du rap comme as. Et ils ont aussi marqué le rap parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle le slang, c'est l'argot, tu vois. Et ils avaient des mots propres à eux. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Squally qui est l'ancêtre du Aha, où donc, quand il y a des flics qui arrivent, ils criaient ça, et c'est marrant parce qu'ils s'en servent comme adlib. Il y a You Dig, genre c'est t'as capté en gros, ça veut dire tu creuses. Il y a Down, pour parler des gâteries qu'on peut leur faire. Voilà, et il y a le fameux, attention, on faut prendre ça avec des pincettes, mais le No Homo de Cameron. Il fait des allusions, et dès que genre c'est un peu tendancieux, il disait No Homo. Voilà, donc c'est un truc qui a été repris après même dans...
Ça vient de là à la base.
Ouais, le No Homo, ouais, ça vient de, ça vient de fucking Cam. Ouais. Et ouais, donc ils ont vraiment tout un univers et musical et graphique et de mots qui est propre à eux. Et on va pas quitter Deep Set, parce que j'ai bientôt fini ma partie sur les diplomates, sans parler d'un certain Max B, le roi de la wave, dont Jojo est chaud de vous parler.
Juste un petit mot, en tout cas. Un petit SO, parce que ça me tient à cœur, j'aime bien cet artiste. Donc Max B, a.k.a. Bigavelli, a.k.a. Wavy Croquette, incroyable artiste qui ressemble un peu à 50 Cent, un peu dans sa façon de chantonner, tu vois, chanter, rapper, mais avec, je trouve, plus de charisme et plus de souplesse, en fait, dans ce qu'il est capable de faire. En fait, lui, il faisait partie du crew de Jim Jones à la base, de Bird Gang,
ouais.
Et ils se sont embrouillés parce que justement, il disait qu'il avait une même un rôle dans l'écriture de We Fly High, donc le gros tube de Jim Jones, et du coup Jim Jones n'a jamais admis ça.
Et c'est même pour autre chose, il a refusé de payer la caution de Max B qui allait en prison, ouais. Avec théoriquement des thunes qu'il aurait eu sur We Fly High. Et ouais, donc il a rage.
C'est parti de ce tube-là aussi, justement, il y a un conflit là-dessus, et donc ils se sont complètement embrouillés, mais genre, là je crois que c'est, la hache elle sera jamais enterrée, c'est vraiment, c'est parti loin quoi. Le problème c'est qu'il est parti en prison depuis, mais il a quand même inondé le marché de mixtape entre 2006 et 2008-2009 avant qu'il parte en prison, et il a créé son propre crew Gang Green avec notamment l'incroyable French Montana. Ouais.
Mais c'est lui qui l'a mis, qui a fait découvrir French Montana.
Ouais, c'est ça. Alors,
on remerciera jamais assez.
Merci.
Mais alors tu vois, French Montana pour le coup sur les tapes avec Max B, bah, ça moi j'aime bien, tu vois, alors que bon, on va dire que c'est un bon rappeur, mais on va dire que l'association des deux rend le truc assez sympa.
Finalement, tout est connecté, mon gars, parce que
la wave est capable de tout.
Tout est connecté. Il y a French Montana qui a signé sur l'album de Didi, mais qui a été découvert par Max B.
Et d'ailleurs, il a sorti un nouvel album Max B. Alors, je sais pas trop comment il a fait. S'il y a encore des trucs qui traînaient, des enregistrements qui traînaient, il a sorti un album. Il y a des gens
qui sont capables d'enregistrer en prison.
Mais je pense qu'il a dû enregistrer.
Ouais. Mais là, il a envoyé des trucs de qualité plus que l'ASDEG depuis la prison. Mais ouais, puis c'est, Max B, c'est une influence sur Wiz Khalifa, sur Kanye West, sur Joke en France.
Ok. Et ben carrément, merci pour cette longue partie, mais très intéressante, sur The Diplomate, sur le en mode de vie. D'ailleurs, on y fait référence dans le chat. Un petit point sur le chat avec Unoni qui nous dit cette fameuse époque de Momo en basket. Momo basket.
Oui, c'est vrai.
Voilà, on l'imaginait très bien habillé en rose avec des diamants aux oreilles.
Flûte en temps, ouais.
On l'avait aussi, d'ailleurs. Voilà. Radio MS93 qui nous demande à quand une sonnerie Deeply Rooted, faudrait déjà qu'on ait un jingle. Donc n'hésite pas si tu te sens de faire un jingle, on n'a toujours pas de jingle officiel.
On est chaud de faire de l'argent là-dessus.
Merci aux gens qui nous ont follow aussi, comme Menika Folden et d'autres que j'ai dû rater. On va s'écouter du coup un son des diplomates pour illustrer tout ça.
Le fameux Deep Set Anthem.
Voilà, incroyable Anthem, son. Et on revient juste après pour continuer de parler d'Harlem à tout.
Boy, yeah, it's Santana. Once again, hey man, yeah. Make see do this, killer, chip, freaking. Yeah, man, I'm back at it. Come on, today's a new day. Got the booty up in the suitcase, so go uptown to Harlem. Tell them that I sent ya. Yep. Tell them it's August, I'm going to November. I need a couple birds, get abroad, have them sent up. Call my bird, get my broad, have her sent up. Niggas call my squad, have them sent up, please. Yeah, I see a town I'm liking. See some niggas getting money in a town, I like it. Yeah, I run up on them with the pound and light it like it's my block now, alright, kid. He understood me quite clear. Then that thing bang out and rang out the side of his right ear. And I got back to my business, back to my bitches, back to the kitchen at Pyrex Vision. Pop, I let that white stuff sit in. Get hard, get rocked, get to the block and pitching. Yeah, I'm sorry, but this is how I'm living, and this is how I'm getting. Come fuck the war with it.
Hey, hand on my hand, listening to gangster music. Hey, I stood at home, hand on the chrome in the zone, flicking the candles, watching how the gangsters do it. Stay with me. I stood alone, getting dome from a thick chicken sandwich. Watch
now I see death mad around the corner. Gotta stay high now, will I survive in a city where the skinny niggas die? No. It's the city where the skinny niggas ride, yeah. 4-5 send me on they side, yeah. Twisted when they drive, yeah. Lick a shot, yeah. Big pop and pop, yeah. One more for Shine locked inside, yeah. Two more for Cam for taking over the rock, yeah. Yeah, it's my year, so okay, okay, okay. Y'all can't fuck with me, no way.
What?
Jose or Hector Camacho. Never. Check blowing Racho, chest clothes and tacos. Motherfucker, I'm the best. I told y'all before, I showed y'all before. Hey,
I stood alone watching the wall in the zone, hand on my handle, listening to gangster music. Hey, I stood at home, hand on the chrome in the zone, flicking the candles, watching how the gangsters do it.
Stay with me.
I stood alone, getting dome from a thick chicken sandwich,
watching Shaft, clocking math,
okay. Man. I'm with you, Santana. This the union right here. Let's do it one time. Dipset, bitch. You know you can't fuck with okay. The boy. Killer.
I'm on the west side of Chicago looking for a bus stand to make me put my two arms up.
touch down, you stay in touch now. But when I touch down, I'm like buckshot shorty, duck down. Yeah, I must clown, I'm from Harlem Uptown. Will we flash money, take your bitch and ask you what now? Bird flip a dozen, chicks is dicks, they suckin'. Swallow my kids, go and kiss they cousin. Yes, they kissin' cousins, toy is kissin' muffin. Worse than that, they go home and kiss they husband. This shit's disgusting, keep the chickens cluckin'. Keep the pigeons buggin', this on my wrist is nothing. It's just yellow hearts and pink diamonds. Where I get the money for this, don't think rhyming. You fucking with Pablo, Bravo, Mario, Via Bono, Ho, Tato.
I stood alone watching the wall in the zone, hand on my handle, listening to gangster music. Hey, I stood at home, hand on the chrome in the zone, flicking the channels, watching how the gangsters do it.
Say with me.
I stood alone watching the wall in the zone, hand on my handle, listening to gangster music. Hey, I stood alone getting dough from a thick chicken sandwich.
Watching Shad clocking math.
Incroyable en thème de Deep Set et de retour dans Deep Pirotide pour parler d'Harlem. On a presque fini, c'est la dernière partie. Après, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi écouter. Un collectif qu'on doit aborder maintenant, plutôt qu'un groupe. Je pense que plutôt on peut dire
ouais, c'est un collectif.
ASAP Mob, qui a émergé. Enfin, je ne sais pas si l'un de vous deux s'y connaît
plus. Début 2010, à peu près.
C'est ça, et qui a bien, bien cartonné, qui est composé du coup de ASAP Rocky,
ASAP Ferg, ASAP.
ASAP Twelvy, ASAP Tybeat, ASAP Nas, je sais plus. Ouais,
donc une ribambelle de rappeurs. Est-ce qu'ils sont tous de Harlem déjà? Comment ils se rencontrent?
Je sais pas. Je pense qu'ils sont tous de Harlem parce que c'est, ils sont quand même hyper jeunes, donc ils se rencontrent.
Je pense que c'était en mode bande dans les rues d'Harlem, mais il y avait un peu 2-3 leaders dans le groupe. Tu vois, t'as ASAP Yams, paix à son âme, qui est ancien espèce de producteur manager du groupe. Qui est mort because trop de lean et d'oxycodone. Il y a ASAP Rocky, je pense qu'il est plus connu de tous.
Bah, carrément, oui, c'est la carrière
la plus nourrie. Il y a ASAP Ferg aussi après.
Peut-être qu'on peut venir d'abord sur qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau collectif vite rapidement et après individuellement les plus grosses carrières peut-être du collectif.
Bah, collectivement, il n'y a pas tellement de trucs. Ils avaient sorti une tape Lords Never Worry en 2012. Et après ils ont sorti Cozy Tapes 1 et 2 je crois un peu plus tard, mais alors qu'ils étaient déjà connus, donc en fait ils sont pas tellement fait connaître en tant que collectif.
Non, ça a été après.
C'est plus Rocky qui a monté d'abord tout seul, et on voyait bien qu'il y avait aussi tous ses acolytes qui étaient sur les morceaux avec lui, donc c'est plus la carrière de Rocky qui a permis de.
C'est ça, ils ont fait quelques bons morceaux ensemble, tous ensemble.
Ils sont tout le temps présents dans leur groupe, tu vois, ils sont tout le temps en mode.
Ouais, après, c'est aussi au niveau des clips, tu les vois tous ensemble, etc.
Signe de gang, machin. Bah, Yams, en plus, il était reconnaissable de ouf, parce qu'il avait une tache de vin là, sous la joue.
Ouais.
Et avec ses traits, c'est tout.
Et ASAP Rocky, du coup, tu l'as abordé, peut-être en dire deux mots.
Ouais, bah, après, en fait, plutôt que déjà de parler d'ASAP Rocky, c'est dire un peu dans quoi ils s'inscrivent au début, quand ils sont arrivés. C'est un peu un héritage donc, du Sud avec. En fait, ils collaboraient beaucoup au début avec le Ryder Clan, c'est pareil, des groupes qui sont un peu de même années qu'eux, et c'était super jeune à l'époque. Et donc, ils s'inspirent beaucoup du rap de Memphis et du rap Frozen Chop à Houston. Il y avait un peu ce côté-là, et en même temps, le côté cloud rap, donc les trucs qui se faisaient à l'époque plutôt en Californie, ce qui est Main Attraction, des trucs. Le producteur Clams Casino qui a produit pas mal pour ASAP Rocky, qui lui aussi était un des grands producteurs de ce qu'on appelait le cloud rap à l'époque.
Space Ghost Burr, c'est du Raider Clan.
Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, il y a un peu ce côté. Enfin, il y a plus le côté Screwed and Chop pour ASAP Rocky, notamment le morceau Purple Swag qui est intervenu.
Même sur cette Pesso au début, la manière dont il parle avec les grosses voix. Là.
Donc, c'est un peu ça aussi, c'est le rassemblement en fait, tous ces. Enfin, c'est vraiment pour moi du rap d'internet, entre guillemets, c'est vraiment l'ère d'internet parce que c'est plus des influences locales, c'est plus vraiment des influences un peu de partout et qui prend et qui en fait son truc. Et voilà, donc après Rocky, lui, il a sorti sa première tape, je crois, en 2011, Live Love ASAP, qui est assez énorme, enfin, ça reste mon projet préféré. Il avait vraiment ces sonorités-là, Cloud, quoi. Il fait partie en tout cas des premiers artistes cloud, ce qu'on appelait cloud à l'époque, quoi. Avec Lily et Main Attraction.
Il a vraiment un flow God, particulier, enfin, il a vraiment aussi un truc à lui, un flow, une voix quand même assez particulière.
C'est, c'est plus nazière aussi, mais c'est plein de trucs qui ont fait percer en vrai de vrai quand il pensait. Genre son nom, ça a l'air très stupide, mais Saproki, c'est un nom qui envoie et qui t'accroche l'oreille. La manière dont il rappe, le fait qu'il ramène les délires de Houston alors que c'est un mec d'Harlem. Je pense qu'il a
il a quand même une bonne gueule, il est pré-fashion, mode fashion,
il était sorti avec des top modèles machin, enfin il traînait grave dans ce milieu là et
c'est devenu oui en plus une star même en dehors, on peut trouver dans les magazines.
Ouais, puis il a collaboré avec masse de personnes connues mais en dehors du rap, genre Skrillex, Selena Gomez.
Ouais, mais je trouvais même dès son deuxième album il y a des collaborations, trucs complètement qui sont assez rares dans le milieu du rap, quoi.
Avec Skepta là pour le coup, c'est son dernier gros truc là. Je sais pas si c'est le morceau de Skepta ou de
Saproki.
C'est un ensemble de choses. Ils arrivent avec ce délire d'Harlem aussi. Ça faisait longtemps que on n'a pas eu des gosses d'Harlem qui envoyaient de la sauce. Je sais pas s'ils sortent pas en même temps que Joey Badass d'ailleurs. C'est dans les mêmes moments, non?
Ouais, ça, un tout petit peu avant,
un
je pense
peu
que
avant,
c'est,
ouais.
Mais c'est à peu près les mêmes. Ouais. Il y a même un morceau, tu sais, il parlait de la disco, il y avait la disco, Joey Badass, c'était plus des mecs de Brooklyn. Il y a un morceau ouais, sur le Long Live ASAP, qui est le deuxième album de Rocky, où t'as toute la scène de New York, un peu de l'époque, la nouvelle scène de New York en fait. Donc ouais, ils étaient assez, à peu près contemporains.
Donc succès, ouais, il a eu un succès commercial, succès d'estime, reconnaissance, globalement, il a fait assez l'unanimité sur ses premiers albums, qu'on vous conseille, on vous donnera peut-être, je sais pas si vous l'avez mis dans vos menus, non. S'il y a un album que vous conseillerez, quoi, le premier ou...
Ouais, j'aime bien les trois premiers, globalement, ouais. At Long Last, ASAP, qui est le troisième, j'aime beaucoup aussi, mais ouais. Il a un côté un peu plus rock, enfin un pop rock, hein, puis, une sonorité un peu plus large, quoi.
Là-dessus, qu'il y a LSD.
Ouais, c'est vrai.
Clip, ouais, même niveau clip, tu vois, c'est assez léché ce qu'ils font, ouais. Quoi.
Et c'est assez accessible tout en étant un peu innovant et tout, donc je pense que ça s'écoute même pour quelqu'un qui est pas forcément super habitué.
Je crois que de mémoire d'ailleurs, après s'il a été signé, genre il a eu une avance de 3 millions de dollars là, genre quand en étant tout jeune avec Sony, genre ils l'ont chopé direct, tu vois, quand il a commencé un peu à boomer.
Donc on se mettra un son après. Je veux dire, oui, après peut-être qu'il s'est un peu sur les derniers, moi j'avoue que j'ai un peu arrêté de suivre au dernier moment.
Bah, il a sorti 15 albums depuis, hein, c'était Testers, je crois, et qui moi aussi m'a un peu déçu, mais bon, il est censé sortir un album dans pas longtemps, mais je vais l'écouter assez rapidement. Quoi,
dans le délire, je m'étais plus fait chez Bran par Asap Ferg au final, tu vois, genre avec ses Trap Lord.
Ouais, qui était plus trap, mais avec un petit style à lui aussi, mais qui était.
Il a un côté pimp, tu vois.
Ouais. Mm-hmm. Moi, ouais, quelques gros sons qui m'avaient. Je sais pas si j'avais écouté ses albums en entier, il en a fait combien?
Il en a fait pas mal, hein. Il est assez productif, je crois, cette fois. Moi j'avais écouté Trap Lord, c'était son premier là, qui avait bien. Tu vois, qui était vraiment cool. Après j'en sais que j'en avais écouté un autre. Alors je crois pas trop le titre, mais j'avais été un peu déçu, quoi. Et je sais qu'il en sort pas mal et moi je pense pas qu'il soit aussi bon que Trap Lord.
Ils ont tous 33 ans, mon âge, I'm shocked. Trap Lord 2013, Always Strive and Prosper 2016, Still Striving 2017, Floor Seats 2019, Floor Seats 2020. Voilà pour ASAP.
Donc voilà, peut-être pour ASAP Mob, on a fait un petit tour. On vous mettra des références aussi sur le site. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'à chaque sortie d'émission, on vous met des sons à écouter. Les sons qui sont passés dans l'émission, on vous sort une playlist une semaine ou deux après avec de quoi compléter, etc. Et on vous met un tas de références citées dans l'émission pour pouvoir le retrouver, que ce soit des films, des sons, etc. On va peut-être aborder vite fait la nouvelle scène, enfin dans les artistes un peu récents. Ça c'est Jojo, c'est toi qui suis ça aussi.
Ouais, bah franchement, il n'y a pas tant d'artistes que je suis de Harlem, à part Sheik West, qui est un rappeur qui vient du Nigeria à la base, mais qui s'est installé à Harlem, mais lui il avait sorti un bon album qui s'appelait Mud Boy en 2018 et qui depuis a pas.
C'est celui-là où il y a le gros tube comme
ouais,
il s'appelle.
Ouais, donc après voilà, il y en a d'autres, des artistes qui sont encore actuels. Bon, à part les Zap Mob, il y a Smoke Dizzy aussi, un truc un peu de stoner, mais qui est pas très. Enfin, c'est sympa, hein, mais c'est un peu tout le temps pareil. C'est pas. Après, je crois qu'il y a des rappeuses aussi, Teyana Taylor. Il y a Azealia Banks aussi qui vient de là-bas.
Elle vient d'Harlem.
Ouais. Et bon, il y a un peu embrouillé avec tout le monde, je crois.
Ouais. Attends, Iggy Azalea ou Azalea Banks?
Non, Azalea Banks.
Parce qu'Iggy Azalea, je crois qu'elle est
australienne. Ouais, c'est ça.
Toi, Momo, t'avais repéré des gens un peu...
Davis.
Oui, il y a Davis, mais ça fait aussi un moment qu'il est là.
Ça fait un moment qu'il est là, tu vois, c'est plus 2014. C'est pas non plus genre la New Generation, c'est très rapidement pour l'histoire. À la base, lui, il était plus taillé pour le basket. Je sais pas, il fait un peu plus de 2 mètres, il avait joué avec Kevin Durant. Puis bon, prison, etc. Vu la sortie des projets, c'était un peu la nouvelle hype de Harlem. Je sais pas, c'est un mec qui a du mal à confirmer. Là, son premier album, je crois que c'est Paranoia, j'ai oublié le nom, mais qui est plutôt sympa. Mais pareil, t'es sur des rythmiques trap et tout, tu vois, y a pas non plus un son identifié New York, New York. Et
là, il a sorti un projet avec Harry Fraud.
Ouais, mais que j'ai pas écouté. AFA, je crois qu'il s'appelle AFA, ouais.
Qui est pas mal, enfin, moi j'aime bien Harry Fraud,
oui,
donc
c'est niche.
Ça fait plaisir, mais après moi je suis pas ultra fan de Davis, hein, mais je pense que ce projet là en tout cas, ça peut le refaire quand même, le remettre un peu sur le devant de la scène alors qu'il s'est un peu fait oublier,
c'est
un peu fait discret. Quoi.
Ouais, ce que j'aimais bien même dans ses interviews, tu vois, c'est qu'il essaie un peu de ramener un peu une merde à l'ancienne, tu vois, genre façon 90s dans la mentalité. J'entends, lui il est. Enfin, il est contre tous ces rappeurs, tu vois, qui parlent de drogue, mais genre, j'ai l'impression que c'est limite les rappeurs essayent de vendre de la Molly, de la MDMA. Il dit, ouais, genre, futur, il dit, ouais, je pop 15 pilules par jour, mais il dit,
il rend
la drogue glamour, et lui, il disait que non, c'est pas ça la vie, quoi. Donc, j'aimais bien le discours aussi.
Ok, peut-être que avant de se quitter, car l'émission touche bientôt à sa fin, on a déjà fait presque.
Voilà.
D'habitude, on fait une heure, là, on va plutôt être vers le projet d'une heure et demie. On a l'habitude de se faire un petit menu maxi best-of, c'est-à-dire, voilà, si vous deviez repartir avec une boisson, une frite et un bon burger de Harlem, avec quoi vous partirez comme album?
Bon, je vais commencer. Ouais, bah, il y a clairement l'album de Big L, Lifestyle of the Poor and Dangerous, sorti en 95.
Ouais.
Vraiment belle tranche de New York de cette époque. Près de Diplomates, j'ai mis l'album des Diplomates, Diplomatic Immunity. Et Jim Jones, Hustler's Pomi, donc Hustler's Product of My Environment. Waouh, merci pour l'accent, sorti en 2006, qui est. N'allez pas du tout y chercher de la technique ou du machin.
C'est là-dessus qu'il y a We Fly High, non?
Il y a là-dessus qu'il y a We Fly High, Rip in Time, la première. L'intro de l'album est stylée. Comment?
Il n'y a pas Runners, je sais pas quoi, un truc. Un morceau comme ça connu. Enfin bref.
En tout cas, vous y trouverez de l'enjaillement.
Ouais, c'est. Je sais pas, c'est vraiment en mode. Moi, c'est par. Ça part nostalgie, tu vois. Le kiff de l'époque.
Coup de cœur de l'époque. Ok, donc Big L, Diplomate, Jim Jones, Jojo, de ton côté.
Je vais partir sur les mêmes bases que vous. Je vais prendre le Big L, Lifestyles of the Poor and Dangerous, c'est assez incontournable. Puisque j'ai parlé de Big L, c'est évident qu'il est dedans. Je mettrai ensuite un petit Cockwave de French Montana et Max B.
Ah, la surprise, la sortie, la surprise.
On l'attendait.
Et vraiment, il vaut le coup. Bon, après Max B, il a sorti un million de projets.
Libérez Max B, ne l'oubliez pas, libérez-le.
Free Max B, n'oublions jamais. Et pour finir, un petit ASAP Rocky. Allez, Live Love ASAP, le premier quand même. C'est potentiellement l'album que les auditeurs de rap aujourd'hui, le plus le connaissent le mieux. Mais bon, ça reste un très bon
album. Ça me parle.
Un menu plus varié pour Jojo. Il y avait des légumes, de la viande, des fruits.
L'album de P. Diddy, du coup.
Bien
le
sûr,
deuxième,
Press Play.
Press Play sont sortis en 2006. Et non, pas du tout. Là, on est chez Quick, on est parti.
Shout out à Quick. Hein.
Ouais. Voilà, on a fait un bon tour de Harlem. On espère que vous avez aimé. Du coup, donc, on le rappelle, on a tourné cette émission en direct sur Twitch une semaine avant qu'elle sorte. Donc les gens, merci de nous avoir suivis sur Twitch. Les autres, on vous retrouve en podcast comme d'habitude. Pour tout savoir de Deep Erotic, vous allez sur www.deeperotic.fr, la page Facebook Deep Erotic l'émission, le compte Twitter qui s'alimente comme il peut.
Comme jamais.
N'hésitez pas à les follow. Peut-être qu'on fera une petite pause puisque nos parcours respectifs nous prennent pas mal de temps. Mais le projet Deep Erotic continue. On vous retrouvera sous une forme ou sous une autre bientôt dans les prochaines semaines. Voilà, je crois que j'ai tout dit, si vous voulez en replacer une avant qu'on clôture.
Non, mais moi j'ai kiffé faire cette émission en live sur Twitch.
C'était cool. C'était cool de nous retrouver nous et puis en plus de tester la petite nouveauté.
Ouais.
C'était sympa.
Et on avait droit à un petit crash, désolé encore.
Ah, on découvre le métier. Hein.
Ouais. Diplomates for Life, on n'oublie pas.
C'était expérimental. En tout cas, allez écouter le son d'Harlem, rattraper les épisodes si c'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de choses à écouter dans le rap US. On vous balance le dernier son qui est
Lamborghini High
de ASAP Mob
et Juicy J.
Bonne soirée. Salut à tous.
Merci d'avoir suivi.
Yeah, 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 yeah. fornicate with foreign hoes that I date like every day. Hey, yeah, I rock the rap. Yeah, I bought the Wraith. Yeah, I'm out of state. Yeah, I like the race. Yeah, I wake up late. Yeah, I'm out of shape. Yeah, I'm eating crepes. Yeah, I'm sipping wine. Yeah, she feed me grapes. Hey, she make no mistakes. Me make more complaints. I love how she thinks she graduated with that brain. She go to
Lamborghini hot, Lambo by the crib. This is how it is. Yeah, these niggas fake. No, we can't relate. Lamborghini hot, Lambo by the crib. This is how it is. This is how we live. Bitches, 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 bitches. Lamborghini hot, Lambo by the crib. This is how it is.
Yeah.